Après la traversée de la mer Rouge, Moshe a chanté Az Yashir Moshe, etc. Mais voilà que quelques versets plus tard, Myriam répond et demande aux femmes de chanter. Voilà le verset. Vata'an la'em Myriam, shiru la'shem, ki ga'o ga'a, sous verorvo, rama bayam. Myriam donc a répondu, leur a répondu, chantez pour Hachem car il est majestueux. Et elle poursuit, le cheval et le cavalier, il les a lancés dans la mer. Donc, le pshat évident, le sens littéral évident, c'est que Myriam répond aux femmes et il leur demande de chanter pour Hachem. Bien. Eh bien, un passouk, ça s'examine à la loupe, parce que ce verset-là nous pose plusieurs questions. Première question, la'em, A-E. Deuxième question, vata'an, et a répondu. Troisième question, elle explique, elle donne une justification. Pourquoi chanter? Parce que le cheval et son cavalier ont été jetés dans la mer par Hachem. Alors, je m'inspire d'un enseignement qui nous vient du Shlah et également d'un cours de Rabbi Yosef Ben Tata que m'a cité Rav Eliyahu Bakish. Et Myriam leur a répondu. La M a répondu à eux. Mais attendez, n'était-ce pas à des femmes qu'elle parlait? Pourquoi dit-elle à eux? C'est une question effectivement qui mérite une réponse. Le genre masculin utilisé ici est contre tout bon sens. On ne comprend pas. Alors le Shlah Kadosh a remarqué que c'est un emploi. En fait, c'est un contre-emploi. Le genre ne convient pas. Il aurait fallu l'emploi d'un genre féminin. En fait, il nous parle d'un verset précédent, le tout début du chapitre 15 de Shemot, où en fait il y a eu emploi pour les hommes d'un genre féminin. Donc ici nous avons l'AM, c'est un genre masculin à propos de femmes, mais plus haut on a eu le genre féminin à propos des hommes, puisqu'il était écrit Etashira. Azot, c'est le genre féminin qui est utilisé pour ce chant. En fait, l'explication qui nous est donnée, c'est que les femmes ont eu un trait de caractère plutôt propre aux hommes dans leur situation. Elles avaient une foi entière en Hachem. Elles savaient que Hachem allait les libérer. Et elles ont même, nous dit-on, préparé des tambourins. En prévision de la joie à venir, alors qu'elles n'étaient pas encore libérées, elles étaient encore dans l'esclavage d'Égypte. Le Shlah Kadosh explique, elles se sont en quelque sorte changées en personnes qui ont la force d'un homme. Alors qu'au contraire, les hommes, du moins la plupart des hommes, ont hésité devant la mer. Avant que la mer ne s'ouvre, ils ont eu cette hésitation. Un trait de caractère que l'on attribue peut-être à tort, mais qu'on attribue plutôt aux femmes. C'est pour cela que pour les hommes, la Torah utilise un langage au féminin, et c'est pour cela que la Torah utilise un langage, donc pour les hommes, un langage au féminin, et l'inverse, pour les femmes, un langage au masculin. Deuxième question. Vata'an. Et a répondu. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse? Personne n'a posé de question. On nous dit que Myriam a commencé à dire chanter pour Hachem, mais au lieu de dire elle a dit, on nous dit elle a répondu. Mais personne n'avait posé de question. En fait, toujours selon le même commentateur, la question implicite était là. Fallait-il que les femmes chantent elles aussi pour exprimer leur reconnaissance envers Hachem. En fait, on le sait, les femmes sont dispensées en principe des mitzvot positives liées au temps. Comme par exemple la mitzvah des téphilines, elles ne mettent pas les téphilines, ou le chant du Hallel lors des fêtes, elles n'ont pas besoin, disons, elles ne sont pas tenues de chanter le Hallel lors des fêtes. Donc, c'est une question potentielle. Et Myriam y répond par avance, oui, dans ce cas précis, les femmes doivent chanter, elles sont concernées, car elles ont bénéficié du miracle tout comme les hommes. Donc, elles devaient chanter. C'est un petit peu comme pour l'allumage des bougies de Hanouka. Elles ont bénéficié du miracle, donc elles sont concernées par cet allumage également. On a donc répondu aux deux questions, aux deux premières questions. La troisième est un petit peu plus compliquée parce qu'elle elle relève de la justification. Pourquoi donc faut-il que Myriam ajoute une justification et surtout une justification pareille? Justification, au demeurant, très étonnante. Le cheval et son cavalier, Hachem les a lancés dans la mer. Ben, on sait bien qu'en principe, pour tout être humain et encore plus pour une femme, la mise à mort d'un animal ne suscite généralement pas une joie débordante. Faut-il chanter parce qu'Hachem a tué le cheval et le cavalier de surcroît? Et pourquoi en plus mentionner dans le passouk le cheval avant le cavalier ennemi? On comprendrait que les Hébreux, hommes et femmes, pouvaient se réjouir de la mort des cavaliers. Cavaliers, ce sont des gens qui les poursuivaient pour les rendre à leur condition d'esclaves. Mais le cheval, qu'a-t-il à voir dans cette affaire? Myriam mentionne le cheval en premier et elle emploie aussi, voyez-vous combien il faut scruter les versets attentivement, non seulement le mot sous cheval est mis avant le mot verorbo et son cavalier, mais de plus sous se retrouve au singulier. En fait, elle suggère un raisonnement a fortiori qui a été immédiatement compris par toutes les femmes qui l'entouraient. Voyez le cheval qui est innocent, il a été tué avec le cavalier qui est coupable. Dieu n'a donc pas puni l'un et gracié l'autre, il les a également punis. De la même manière, si l'un des deux était mérité d'être élevé, d'être remercié, d'être récompensé, ben, ça aurait bénéficié à l'autre aussi. Et c'est là où l'on a l'allusion fine de Myriam. Le cheval, ce n'est pas le cheval. Le cavalier, ce n'est pas le chevalier. Ce n'est pas le cavalier. Ce sont les deux éléments d'un couple, les deux conjoints, qui sont unis dans une seule unité. Et dans ce cas, la punition du coupable, le cas du cheval et du cavalier, la punition du cavalier a été transmise à l'innocent cheval. Et à l'inverse, celui qui ferait de bonnes actions, ben ses actions bénéficieraient à l'autre élément du couple. Donc par cette métaphore, Myriam la prophétesse annonçait une nouvelle extrêmement réjouissante. Hachem rétribuera la femme et son mari ensemble, même si c'est l'un ou l'autre qui doit faire ceci ou cela au niveau du respect des mitzvot. Par exemple, c'est à l'homme que s'adressent certaines mitzvot, telles, on a cité les téphilines, telles l'étude de la Torah, mitzvot liées au temps. Mais l'épouse va bénéficier également de ce respect des mitzvot par le mari, puisque c'est le couple qui bénéficie, comme c'est cela l'allusion, le cheval et son cavalier, le bénéfice des mitzvot de l'un profite à l'autre. Et donc cela méritait d'être célébré par un chant. En fait, les femmes sont véritablement le moteur de la rédemption. Elles ont gardé l'espérance en prenant leur tambourin, par exemple, en sortant d'Égypte, alors qu'il y avait des choses plus importantes à prendre. On se souvient que les matzot, enfin les matzot, du moins la pâte non encore levée, ils n'avaient eu le temps ni de faire lever ni de cuire, eh bien, ils les ont pris sur leurs épaules. Et ils avaient beaucoup de trésors avec eux sur leurs montures, etc. Donc, se charger de tambourin, vraiment, c'était pas l'objet le plus indispensable du monde. Mais elles y ont tenu, parce qu'il s'agissait de célébrer la libération qu'elles attendaient, elles étaient sûres que cette libération viendrait. Leur foi intacte a d'ailleurs toujours soutenu l'espérance du peuple quand les hommes n'y arrivaient plus. Ainsi, elles ont toujours gardé vivante la possibilité même de la délivrance. On sait que Myriam, enfant, a fait un reproche à son père qui voulait renoncer d'avoir des enfants. Et elle lui a dit, mais tu condamnes les filles. Le pharaon ne voulait condamner que les garçons. Toi, tu condamnes aussi les filles. Et donc, cette préparation, cette foi qui fait que par exemple, elles avaient pris les tambourins, bien le remèze, l'allusion est ici que la délivrance passe par la force intérieure des femmes, capables de voir même au-delà d'une situation extrêmement difficile. Une petite dernière chose, si vous le voulez bien, avant qu'on termine sur la lecture de ce verset. Un remèze, une allusion que l'on va chercher dans la grammaire, en fait, dans la lecture des verbes, des modes utilisés. Moshe a utilisé le futur, Ashira, je chanterai. Et comment je chanterai? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train, il chante immédiatement. Pourquoi utilise-t-on cette forme verbale du futur? Et de la même manière, que fait Myriam? Eh bien, elle va utiliser une autre forme verbale qui est shirou, c'est-à-dire chanter. C'est un impératif présent. Donc, ce que l'on voit, c'est que Moshe chante, certes, ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire la séparation de la mer, le passage, etc. Mais avec une forme future, parce que, en définitive, au-delà de ce miracle, il dit, on chantera de nouveau pour d'autres miracles. À l'impératif présent utilisé par Myriam, c'est un appel, chanter, chanter dans une joie qui n'est pas un ordre ponctuel, pour cet instant unique. En fait, c'est un appel à entrer dans une joie qui dépasse le moment présent. Elle invite les femmes à chanter, non seulement pour ce qui vient d'arriver, mais aussi pour ce qui arrivera encore. Elle projette la joie vers l'avenir. En fait, et on l'attend pour bientôt, Bezrat Hashem, cela annonce déjà le Shir Hadash, le chant nouveau, celui de la délivrance finale que nous attendons avec la venue du Mashiach. Amen. Kenny Hudson.